France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes et tenter de mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur signification et leur histoire.
En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Et aujourd'hui, l'identitarisme.
Alors que je défends l'identité de tous les peuples chez eux, je m'insurge contre l'entreprise criminelle visant au remplacement de nos populations pour nous anéantir.
L'obsession de l'identité a envahi le champ politique. La question qui fait débat ne semble plus être « où voulons-nous aller ?»« Quel monde voulons-nous construire ?» mais plutôt « qui sommes-nous ?» ou « comment rester nous-mêmes ?» La fin des grands schémas de pensée, des grilles de lecture cohérentes après la chute du mur, la mondialisation, l'interconnexion de tous et de tout, la crise de la représentation dans les États-nations démocratiques, le retour des populismes et leur obsession du bouc émissaire, la nouvelle vivacité religieuse, tout est réuni pour que l'identitarisme devienne la matrice de la vie politique partisane, même si ce n'est sans doute pas une préoccupation si fondamentale et spontanée des peuples. Mais il est plus facile, pour tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir, d'agiter la question « qui sommes-nous et qui sont nos ennemis ?» que de définir un cap et proposer des réformes qui nous permettraient d'affronter un avenir incertain. L'identitarisme infuse, à des degrés divers, tous les camps politiques. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller à la découverte d'un homme, Dominique Vénère. Peu connu du grand public, est un pur identitaire raciste et intellectuel. Il est mort en 2013 dans des conditions que nous allons vous raconter. Son œuvre, obsessionnelle et paranoïaque, constitue pour beaucoup d'identitaires et de responsables d'extrême droite un réservoir à idées et à concepts. Nous allons nous interroger avec le philosophe Michael Fossel en fin d'émission sur l'identité de la France ou l'identité française. Et on verra que ce n'est pas tout à fait la même chose, et sur le poids aussi de la question identitaire dans nos débats. Mais avant cela, donc, Dominique Vénère, un livre passionnant, lui est consacré, son titre « L'assiégé » chez Jean-Claude Lattès, son auteur, notre confrère de l'étage du dessous de la maison de la radio, Renaud Dely, de France Info, entre autres, très bon spécialiste de l'extrême droite, il a pris l'ascenseur et il est monté nous voir. Renaud Dely, dans L'assiégé chez Jean-Claude Lattès, vous nous faites découvrir un homme peu connu du grand public, mais très important dans la sphère identitaire, Dominique Vénère. Qui était Dominique Vénère? Et vous allez nous raconter après sa mort, le message qu'il a voulu laisser.
Dominique Vénère est effectivement un personnage méconnu, mais qui a eu une influence considérable, et encore aujourd'hui, 10 ans après sa disparition, au sein de l'ensemble de l'extrême droite, et plus particulièrement dans cette frange dite identitaire. Pour résumer d'une formule, disons que Dominique Vénère, c'est l'homme qui a inventé l'extrême droite moderne, en France en tout cas, et au-delà d'ailleurs, puisqu'il prétendait incarner, défendre une forme d'extrême droite identitaire à l'échelle européenne. Et c'est un personnage qui est né en 1935 et décédé en 2013, et qui tout au long de son existence, pendant plus d'un demi-siècle, on va dire, d'activisme politique, a défendu les mêmes idées, les mêmes obsessions identitaires sous différentes formes. Il a été successivement soldat en Algérie, s'est engagé très tôt, très jeune, pour faire la guerre d'Algérie, parce que pour lui, défendre l'Algérie française, c'était pas seulement défendre l'empire colonial, c'était défendre en quelque sorte une frontière occidentale, une frontière européenne menacée justement par l'immigration, l'étranger, l'Africain en quelque sorte, d'où d'emblée ce sentiment d'être assiégé. C'est aussi en quelque sorte l'un des pionniers, entre guillemets prophètes, à utiliser, même s'il n'utilise pas la formule, ce concept fumeux et complotiste de grand remplacement. C'est-à-dire qu'il est obsédé par l'idée de voir un jour disparaître les populations occidentales, et très clairement la population blanche, et qu'elles seraient remplacées par des populations immigrées africaines.
Il représente une extrême droite donc occidentaliste, raciste d'ailleurs. pas chrétienne, païenne.
Voilà, il a eu une jeunesse chrétienne et il a rompu avec le christianisme et il s'est rallié.
Son père était chrétien, vous le décrivez bien, était chrétien et trouvait que c'était finalement une idéologie ou une pensée assez molle.
Voilà, le père de Dominique Vénère était chrétien d'une part, membre du PPF, le Parti Populaire Français de Jacques Doriot pendant la guerre, et il non seulement était chrétien, mais il était architecte et il a fait fortune en bâtissant des églises en région parisienne, en particulier au profit des jésuites. Sauf que Dominique Vénère a rompu d'ailleurs à la fois avec son père et avec le christianisme, parce que, en vertu de cette conviction que le christianisme, en quelque sorte, c'est la religion des faibles, parce que c'est la religion du pardon, c'est la religion de l'accueil de l'autre, y compris de l'accueil de l'étranger, toute chose que réfute Dominique Vénère, qui lui vivait dans une forme de mystique antique d'ailleurs, et vouait une admiration à un certain nombre de mythes païens issus de l'antiquité gréco-romaine, avec une forme aussi de virilisme, et puis effectivement d'occidentalisation, c'est-à-dire son obsession, c'est la défense de la race blanche, très clairement, de l'Occident, au-delà même des frontières nationales, mais de l'Occident entendu au sens en tout cas de l'ensemble de l'Europe, avec donc cette menace migratoire, cette menace de disparition d'un peuple à ses yeux, et ce qui explique ses engagements multiples, successifs, mais continus pendant plus de 50 ans. L'armée, je le disais, la guerre en Algérie notamment, ensuite le terrorisme avec un certain nombre d'attentats commis à la période de l'OS qui l'ont d'ailleurs conduit en prison à plusieurs reprises, donc là on est au tout début des années 60. Même chose pour défendre la même obsession identitaire. Ensuite,
l'antigaullisme, évidemment.
L'antigaullisme, parce que le général de Gaulle est doublement un traître. Alors, un traître parce qu'il a combattu le maréchal Pétain à Vichy, mais Dominique Vénère n'a pas été collaborationniste. Il était trop jeune, il était enfant pendant la guerre, mais
il a défendu le collaborationnisme après, en tant qu'historien, puisqu'il a une seconde carrière d'historien. Mais, donc, le début des années 60, on est donc dans l'OAS, il participe à toutes ces actions clandestines, terroristes, disiez-vous.
Notamment, il plastique le siège du MRP, le mouvement démocrate chrétien de l'époque, coupable à ses yeux d'être favorable à l'indépendance de l'Algérie.
Puis il saccage le siège du Parti communiste.
Ça, c'est avant, effectivement. Alors, au moment de l'invasion de la Hongrie par les chars soviétiques, il fait partie d'une manifestation extrêmement violente qui saccage le siège du Parti communiste à Paris, et qui ensuite d'ailleurs s'en prend aussi aux locaux de l'Humanité. Donc ce sont des actions à la fois violentes, symboliques et toujours pour refuser à la fois donc le communisme, le péril rouge en quelque sorte, foncièrement anticommuniste, et aussi défendre l'Occident, d'où cet engagement en Algérie, puis avec des actions terroristes à OS, et notamment d'ailleurs il fomente un complot contre le général de Gaulle, et avec il échafaude une prise de l'Élysée qui n'aura évidemment jamais lieu. Tout ça lui vaudra 3 séjours en prison.
Oui, c'était très précis. Hein. Il y avait un nombre de camions, un plan de prise de l'Élysée physique.
Ah oui, Dominique Vénère avait fantasmé, préparé ce plan d'une prise de l'Élysée, effectivement, avec un certain nombre de camions qui auraient déboulé dans la cour de l'Élysée, un certain nombre d'hommes qui se seraient introduits au sein du palais, qui auraient même, pourquoi pas, pris possession de la personne du général de Gaulle.
Et avec cette idée, c'est important pour la suite, Renaud Dely, avec cette idée qu'il serait peut-être le premier à sortir du camion, et sans doute il serait mort, il aurait été tué. Et ça, c'est important pour la suite.
Parce qu'il y a toujours dans la mythologie et dans la logorée de Dominique Vénère la mythologie du sacrifice. C'est-à-dire que Dominique Vénère a toujours mis en avant des obsessions identitaires pour lesquelles il était prêt, dit-il, entre guillemets, à se sacrifier, effectivement, quitte à ce qu'un attentat le conduise à donner sa vie pour ses idées extrémistes, radicales. Et c'est important pour comprendre toute sa trajectoire parce que c'est ce qui explique sa fin.
On va y venir. Je voulais d'abord qu'on précise l'identité de ce personnage, donc un défenseur de l'Occident, non pas chrétien, mais l'Occident blanc, païen. C'est pas un nationaliste au sens où la France primerait dans son idéologie. C'est vraiment le blanc, le chrétien, nostalgique de la collaboration, fasciné par la force allemande aussi, la force allemande nazie.
Alors, le blanc, mais pas le chrétien, justement. C'est-à-dire, le blanc, l'obsession de Dominique Vénère, c'est de défendre ce qu'il appelle la race blanche, entre guillemets, donc de défendre l'Occident et les Occidentaux, qui a un rejet absolu de l'altérité sur le plan identitaire. Ça définit effectivement Dominique Vénère. Et puis, il y a plusieurs périodes dans sa vie qui, en fait, qu'on peut séparer en gros en deux grosses périodes pour mener toujours ce même combat, ce même objectif. Il y a une période d'activité, qu'elles soient militaires, terroristes, politiques. En 1968, il décide de rompre avec l'activité politique au sens strict, c'est-à-dire l'activité militante, l'activisme, etc., et de se consacrer à ce qu'il appelle la contemplation. Ça passe par des écrits, la publication de nombreux livres, et puis la création de deux revues d'histoire successives qui vont défendre peu ou prou la même vision du monde et les mêmes obsessions identitaires. C'est-à-dire que son œuvre contemplative, pour reprendre son terme, elle sert le même objectif, c'est-à-dire réhabiliter d'abord, pour ce qui est de son œuvre d'historien, un certain nombre de périodes, et notamment la collaboration, un certain nombre de périodes où les nationalistes ou l'extrême droite ont été vaincus ou compromis, à commencer par la collaboration, et puis défendre la même vision du monde, notamment cette nostalgie de la mythologie antique, avec toujours une propension à défendre et à exalter les vaincus. Et donc ça passe par la défense, effectivement, de Sparte, des sudistes, dans la guerre de sécession américaine, il consacre un livre aux sudistes, les corps francs en Allemagne qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, vont commencer à s'attaquer à la République de Weimar et qui seront finalement
les partisans de l'apartheid aussi en Afrique du Sud.
Les partisans de l'apartheid en Afrique du Sud ou de la Rhodésie blanche aussi dans les années 60. Globalement, ces combats ont vocation à échouer, d'où cette idée de sacrifice toujours, voilà. C'est-à-dire qui s'inscrit dans ces combats voués à la défaite. Au bout, il n'y a d'autre issue que la défaite et la mort.
Nous sommes en quête d'identitarisme avec le journaliste Renaud Dely et nous retraçons la vie d'un théoricien de la cause identitaire, Dominique Vénère, ce personnage peu connu du grand public mais dont les écrits et la vie inspirent l'extrême droite française et européenne.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Donc, Renaud Dely, une première partie de sa vie très activiste, avec des coups de main et même une tentative de coup d'État, comme vous nous l'avez rappelé. Et puis, une deuxième partie plus intellectuelle, d'historien, une volonté de mener un combat culturel quasiment gramscien. Et cette fin. Alors, c'est là qu'il faut que vous nous racontiez la fin de Dominique Vénère. Dominique Vénère s'est suicidé à Notre-Dame. Mmh. Comment ça s'est passé? Il y a eu notamment un dîner ou un déjeuner juste avant avec certains de ses amis. Racontez-nous cette histoire et cette scène.
Dominique Vénère s'est effectivement suicidé le 21 mai 2013 à Notre-Dame. Alors Notre-Dame, le choix a surpris un certain nombre de ses amis.
Ça paraît paradoxal.
Voilà, pour quelqu'un qui était anti-chrétien et foncièrement païen, sauf qu'il faut bien comprendre que Dominique Vénère ne se suicide pas dans la cathédrale de Notre-Dame, de fait c'est le cas, mais il se suicide à l'intérieur de Notre-Dame, à un endroit précis où, selon la mythologie païenne, avait été bâti et existait au 1er siècle après Jésus-Christ, un temple gréco-romain dédié à Jupiter. Et donc, il choisit exactement la dalle au pied de l'autel aujourd'hui de la cathédrale de Notre-Dame, où était supposé être bâti ce temple. Donc, c'est aussi, en fait, un suicide païen au sein de la cathédrale de Notre-Dame, c'est tout le paradoxe. Il avait d'ailleurs envisagé d'autres endroits qui relevaient de cette même mythologie gréco-romaine dans Paris. Il avait et puis, finalement, il a choisi Notre-Dame en se disant qu'il y aurait davantage de retentissement. Et ce suicide, il a été très longuement préparé par Dominique Vénère, pendant des mois et même pendant des années, il y songeait de très longue date. Et il s'est conclu au cours des semaines précédentes par un certain nombre d'échanges très précis avec son cercle le plus proche. Et effectivement, le jour même, le 21 mai 2013, quatre de ses amis se joignent à lui pour un dernier déjeuner qui a lieu à la Brasserie du Louvre, place du Palais Royal.
Tout près de Notre-Dame.
Voilà, à deux pas de Notre-Dame, effectivement. Ces quatre amis, c'est son cercle le plus proche. On trouve là trois d'entre eux qui seront ensuite les fondateurs d'un institut qui existe toujours aujourd'hui. Il leur avait demandé, lors de ce dernier déjeuner, de perpétuer en quelque sorte ses combats et sa mémoire en créant un institut pour l'identité européenne, qui est aussi un institut, une école de formation extrêmement radicale de défense, donc de cette vision du monde. Ces trois...
Dites-nous qui sont ces trois, c'est important.
Eh bien, c'est Jean-Yves Le Gallou, d'une part, ancien député européen du Front National, puis maigrettiste, qui est un intellectuel de l'extrême droite, qui était membre du Club de l'Horloge, qui est celui qui passe pour l'inventeur du concept de préférence nationale à travers ses tout premiers ouvrages au tout début des années 80. Jean-Yves Le Gallou était un proche et un disciple de Dominique Vénère qui l'a accompagné jusqu'à la fin.
Et maintenant, il est plutôt proche d'Éric Zemmour.
Oui, bah aujourd'hui, l'essentiel de cette mouvance soutient plutôt Éric Zemmour et le mouvement Reconquête. Le deuxième, c'est Bernard Lugan, qui est un universitaire africaniste, nostalgique de l'apartheid et de la Rhodésie blanche, justement, qui est un individu aussi qui a toujours été extrêmement proche de Dominique Vénère. Et puis le troisième, c'est Philippe Conrad, qui lui aussi est un historien ami de très longue date de Dominique Vénère et qui animait depuis de nombreuses années sur Radio Courtoisie, radio d'extrême droite, une émission baptisée Le Libre Journal des Historiens, donc animée par Philippe Conrad, avec l'ensemble de cette aréopage, et en particulier Dominique Vénère, qui y était très, très fréquemment. Et puis le quatrième convive lors de ce déjeuner est un peu plus jeune, il s'appelle Fabrice Lessade, et c'est un disciple en quelque sorte de Dominique Vénère, c'est un grand ami de son fils, et c'est lui qui va l'accompagner jusqu'au bout, parce qu'à l'issue de ce déjeuner, Dominique Vénère leur confirme qu'il va donc se suicider, enfin choisir ce qu'il appelle une mort volontaire, quelques minutes plus tard, qu'il ira à Notre-Dame. Il prépare tout dans le moindre détail. Il y a un certain nombre de lettres qu'il a écrites à une trentaine de personnes et qu'il leur confie afin que ces lettres soient postées une fois qu'il se sera suicidé. Et puis il demande à Fabrice Lessade, donc qui est présent à ce déjeuner, de l'accompagner jusqu'à Notre-Dame, de se mettre un peu plus loin dans l'église.
Et ses amis n'essayent pas ou à peine de l'en dissuader.
Parce que, en fait, tout était préparé depuis déjà plusieurs semaines. Ils avaient déjà échangé avec lui depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois et qu'ils avaient bien compris que la résolution de Dominique Vénère était absolue. Pour lui, c'était une forme de sacrifice politique. C'était un acte politique. Il faut bien comprendre qu'il était en parfaite santé. Il a laissé de nombreux textes et notamment une dernière lettre à propos de ce suicide dans lequel...
Justement, Renaud Dely, on va entendre Bernard Lugan. C'est au moment de la cérémonie d'hommage à Dominique Vénère, quelques jours après sa mort. Tous ses amis et ses affidés se sont réunis et Bernard Lugan a lu la dernière lettre de Dominique Vénère qu'il adresse à ses amis. On l'écoute.
Je le cite. Je suis sain de corps et d'esprit, j'aime la vie et n'attends rien au-delà, sinon la perpétuité de ma race. Pourtant, au soir de cette vie, devant des périls immenses pour ma patrie française et européenne, je me sens le devoir d'agir. Je crois nécessaire de me sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable. J'offre ce qui me reste de vie dans une intention de protestation et de fondation. Je choisis un lieu hautement symbolique, la cathédrale Notre-Dame de Paris que je respecte et admire, elle qui fut édifiée par le génie de mes aïeux sur des lieux de culte plus anciens, rappelant nos origines immémoriales. Alors que tant d'hommes se font les esclaves de leur vie, je me donne la mort de façon militaire afin de réveiller les consciences assoupies. Je m'insurge contre la fatalité. Je m'insurge contre les poisons de l'âme visant à détruire, par exemple, la famille, ultime pilier de notre civilisation menacée. Je m'insurge contre l'entreprise criminelle visant au remplacement de nos populations pour nous anéantir.
Voilà, Bernard Lugan, lors de la cérémonie d'hommage après le suicide de Dominique Vénère, est le thème du grand remplacement.
Absolument, la menace, selon lui, de la disparition des populations européennes, et donc ce concept fumeux et complotiste dit du grand remplacement, qui a été popularisé par la suite, en particulier depuis que l'écrivain Renaud Camus, en effet le porte-parole au début des années 2000, et qui est repris aujourd'hui par une bonne partie d'extrême droite, y compris sur le plan lexical par le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour et Marion Maréchal.
Alors il y a quand même, Renaud Dely, quelque chose d'un peu pathétique dans ce suicide qui se voulait spectaculaire. Finalement, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Fait la une.
Oui, oui, c'est aussi une illustration du parcours de Dominique Vénère. C'est qu'à la fois, c'est quelqu'un qui se veut de radical, d'absolu, jusqu'à donc donner sa vie au service de ses idées extrémistes. Et en même temps, qui professe donc une forme de défaitisme radical, c'est-à-dire qu'il sait que son camp est condamné à l'échec, et ça se traduit y compris par le peu d'écho, et de son œuvre d'abord, et de son geste final ensuite. Ce suicide n'a pas eu d'écho au-delà du cercle de ses affidés, de ses disciples, et ça illustre justement aussi le caractère un peu pathétique de cet engagement jusqu'au boutiste, qui finalement ne fait que attiser un peu plus, effectivement, la vénération de son cercle de fidèles, de disciples, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a encore un certain nombre de groupes qui s'en réclament. mais ça ne franchit pas des franges plus larges de
oui,
la population.
Oui, mais Renaud Dely, vous dites qu'il est fasciné par la défaite, les perdants. Il y avait quand même l'idée que son suicide aurait du retentissement. Il faut rappeler qu'on est 4 ou 5 ans après le suicide de Mohamed Bouazizi, ce jeune Tunisien qui s'est immolé en Tunisie et qui est à l'origine, finalement, c'est le point de départ des printemps arabes. On peut imaginer qu'il pensait que son geste allait le faire rentrer comme ça dans la légende et allait être peut-être le point de départ d'une prise de conscience des Blancs d'Europe, de l'Occident, pour se révolter contre ce grand remplacement. Et c'est un flop total.
C'est un flop total parce qu'effectivement ça ne se produit pas et que seul le cercle de ses soutiens, de ses affidés, salue son geste et appelle à en tirer les leçons. Et dans ce cercle, on retrouve d'ailleurs Marine Le Pen.
Oui, c'était en 2013 et écoutez sa réaction donc juste après la mort.
Dans un message publié sur Twitter, Marine Le Pen voit dans le suicide de Dominique Vénère un appel à la mobilisation des Français.
Tout notre respect à Dominique Vénère, dont le dernier geste éminemment politique aura été de tenter de réveiller le peuple français.
Plus mesuré, Bruno Gollnisch rend surtout hommage à l'écrivain engagé.
Ça a été un des intellectuels les plus brillants de notre temps, auteur de très nombreuses publications. Je pense que son acte est un acte de désespoir. C'est un geste qui se veut un geste de protestation pour réveiller les consciences.
Donc les deux personnages du Front National, du Rassemblement National qu'on vient d'entendre, expriment leurs sentiments émus pour la mort d'un homme qui était pour l'apartheid, qui défendait les sudistes, qui était objectivement raciste.
Et très concrètement, explicitement, Marine Le Pen salue son geste éminemment politique et son appel à ce que le peuple français se réveille. C'est ce qu'elle dit, c'est effectivement ce qu'écrivait Dominique Vénère. Se réveille pour quoi faire? Se réveille contre quoi? Se réveille donc contre la submersion, l'invasion migratoire, la menace de disparition des populations blanches et européennes. C'est bien ça le message de Dominique Vénère que reprend totalement à sa charge Marine Le Pen. Si aujourd'hui vous l'interrogez sur Dominique Vénère, elle va vous dire que c'est de la vieille histoire, on remue l'histoire d'un personnage qui ne faisait plus de politique depuis des décennies. Mais cette réaction de Marine Le Pen à l'occasion du suicide de Dominique Vénère, c'est pas la préhistoire, c'était il y a 10 ans. À l'époque, elle était déjà à la tête du Front National depuis plusieurs années et elle professait déjà depuis de nombreuses années, depuis 2004-2005, cette idée de dédiabolisation, cette volonté de montrer que non, non, le Front National n'était plus le même, qu'avec elle, ça avait changé. On le voit bien que c'est un changement cosmétique, de façade, mais le projet politique de fond, elle-même, les méthodes, les outils ne sont pas forcément les mêmes. La radicalité des termes, évidemment, n'est pas la même. Mais il faut bien comprendre que ce projet identitaire, quelle que soit la façon dont il est conduit, eh bien, il y a une convergence de fond entre les idées de Dominique Vénère et le projet porté par Marine Le Pen. Le Rassemblement National, aujourd'hui, a parfaitement retenu les leçons de Dominique Vénère qu'on peut présenter à travers ses nombreux écrits, notamment un texte qu'il avait écrit en prison début des années 60, comme en quelque sorte le créateur de l'extrême droite moderne, c'est-à-dire une extrême droite tournée vers l'avenir, qui ne ressasse pas les anciennes du passé, la réhabilitation de Vichy et autres, mais au contraire essaye de bâtir un nouveau logiciel identitaire. Il a écrit énormément de choses, Dominique Vénère, perpétué par le Rassemblement National, et aussi d'ailleurs un petit guide de l'art de la dissimulation, c'est-à-dire que Dominique Vénère a écrit comment est-ce qu'il fallait surtout faire attention au choix des mots et des postures, user d'un registre lexical bien particulier pour sembler inoffensif et ne pas effrayer l'inventeur de la dédiabolisation. C'est aussi Dominique Vénère quand on le lit.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Alors, il ne faut pas confondre l'identitarisme et l'amour de la France. Il ne faut pas confondre l'identitarisme ethnique et l'identité de la France, qui peut être ouverte et basée sur de tout autre sentiment. C'est ce que nous verrons avec le philosophe Michael Fossel à la fin de cette heure. Et c'est aussi ce que nous disait Jean Ferrat en 1969. Pendant 3 minutes, je vous propose d'aller aux antipodes de l'identitarisme de Dominique Vénère, contre-programmation, pour respirer un peu, Jean Ferrat.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. ma France. Cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Jean Ferrat, ma France, sur Ma France Inter.
En quête de politique, Thomas Legrand.
Nous sommes toujours avec Renaud Dely, l'auteur de L'Assiégé chez Jean-Claude Lattès, une toute autre France, celle fantasmée par l'identitariste Dominique Vénère. Nous continuons notre entretien avec Renaud Dely. Et alors, il a une fascination pour la gauche, une fascination pour finalement la victoire culturelle de la gauche des années 60-70. Il l'a vécu quand il était jeune, c'était le vaincu de cette bataille culturelle. On va l'écouter dans une interview qu'il a donnée à, oserais-je dire, nos confrères de TV Liberté. C'est une télé identitaire et d'extrême droite. Il a donné une longue interview, il y a eu un grand reportage quelques temps avant sa mort d'ailleurs, comme un testament, et il raconte sa fascination pour Lénine. Il se pose la question que se posait Lénine, bien sûr, que faire ?
J'ai appris en regardant les adversaires. Les adversaires, c'était qui ? C'était notamment le Parti communiste qui était si puissant à l'époque, qui lui avait une tradition, qui lui avait des méthodes, qui lui avait une praxis, une façon de faire. J'ai été un lecteur très attentif et très précoce de Lénine. Je découvrais cet univers politique que je ne connaissais pas. Je me suis lancé dans l'agitation. Je voulais être dans la rue, je voulais mettre en pratique la maxime. La rue appartient à celui qui y descend. La rue appartient au drapeau de nos corps francs. Et nous avons constitué des petits corps francs qui portaient différents noms. Alors que nous étions si faibles au début, nous avons fini par jouer un rôle dans la rue.
C'est fascinant cette admiration, Renaud Dely. Alors là, il s'agit plutôt de la première période. Il était fasciné par la rue. On n'est pas dans la période de dissimulation, son deuxième temps que vous nous avez décrit. Mais ce mimétisme est fascinant.
Ce qui fascine Dominique Venner chez Lénine, c'est notamment le fait qu'une petite organisation militarisée réussisse à prendre le pouvoir, à faire un coup d'État, en quelque sorte, la révolution bolchevique de 1917.
Une avant-garde.
Voilà, il y a une avant-garde éclairée, en l'occurrence du prolétariat, pour ce qui est du léninisme. Lui, ce serait plutôt Dominique Venner prétend être à l'avant-garde éclairée des peuples occidentaux menacés de disparition. Mais en tout cas, il calque cette mystique sur la sienne. En quelque sorte, il y a un texte qui est une sorte de testament, l'un de ses nombreux testaments, en quelque sorte, puisque Dominique Venner a en quelque sorte passé sa vie politique et sa vie personnelle à écrire des testaments à destination des générations futures pour que celles-ci perpétuent, selon lui, son combat identitaire. Il y a un texte qu'il écrit au début des années 60 en prison qui s'appelle « Pour une critique positive », qui est totalement inspiré du « Que faire » de Lénine, auquel il se réfère d'ailleurs à plusieurs reprises, et qui pose les bases à la fois sur le plan organisationnel d'une structure extrêmement rigoureuse, quasi militarisée, à même de prendre le pouvoir dans les fantasmes de Dominique Venner, et puis sur le plan idéologique qui rénove en quelque sorte le logiciel idéologique de l'extrême droite pour essayer de la tourner vers un avenir qui soit européen. Il a lu aussi Malaparte, par exemple, Technique du coup d'État, qui est une sorte de bréviaire des coups d'État réussis ou ratés au fil de l'histoire, et ça l'a toujours fasciné. Et puis, l'autre fascination, on va dire, pour la gauche, c'est plus pour son hégémonie culturelle, effectivement, dans nos sociétés contemporaines. Et donc, à la fois, cette hégémonie, il l'exècre, mais il la reconnaît. Il est admirateur ou fasciné par l'influence de la gauche sur le plan culturel et sur le plan des mentalités dans les sociétés contemporaines. Et ça, ça renvoie aussi à cette idée qu'il avait d'être en permanence, en quelque sorte, assiégé.
Et aujourd'hui, qui se réfère encore à Dominique Venner à l'extrême droite?
Alors, ceux qui s'y réfèrent explicitement sont rares. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'influence de Dominique Venner, 10 ans après sa disparition, semble marginale. Ceux qui s'y réfèrent encore, eh bien, ce sont ses disciples, ceux qui ont fondé l'Institut pour la mémoire européenne, à commencer par Jean-Yves Le Gallou, Bernard Lugan, Philippe Conrad et tous ceux qui les soutiennent, avec des stages dits de formation, avec
il y a des jeunes identitaires.
Il y en a effectivement, mais c'est pas des masses du tout. Ouais. Mais il y a toujours des groupes de jeunes qui participent à ces stages de formation. À l'étranger aussi, en Europe, en Italie, en Espagne, en Grèce, des disciples notamment des anciens du mouvement néo-nazi Obdoré en Grèce. Des militants radicaux du mouvement Casa Pound en Italie. Il est traduit dans ces milieux-là et d'ailleurs, toutes ces organisations assez groupusculaires ont organisé des rassemblements à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition. Du côté du mouvement Reconquête d'Éric Zemmour et Marion Maréchal, on s'en revendique plus volontiers, y compris d'ailleurs de ce fameux concept de grand remplacement. Du côté du Rassemblement National et de Marine Le Pen, on prend pas ce risque-là pour des raisons de prudence tactique. Mais sur le fond, il faut bien comprendre que l'influence des idées et du projet de Dominique Venner, qu'il s'agisse de la défense de l'identité européenne, de l'agitation de cette menace du soi-disant grand remplacement, de la submersion migratoire, ou d'un certain nombre de conseils tactique liée en particulier à la pratique de cet art de la dissimulation. Sur ce fond-là, Dominique Venner et ses enseignements continuent d'imprégner aujourd'hui le Rassemblement National, Marine Le Pen et la plupart de ses cadres. Et tout cela l'ont lu et continuent de lire l'œuvre de Dominique Venner avec beaucoup d'attention.
Il y a un domaine où on peut percevoir l'influence de Dominique Venner. Je vais vous faire écouter encore une fois un extrait de cette longue interview qui date de 2013 où il parle de la Russie de Poutine. Et là, vous allez reconnaître des accents qu'on peut entendre encore à l'extrême droite et pas simplement à l'extrême droite.
Nous avons un grand voisin qui est la Russie, qui est en rupture complète avec les schémas américains et avec les schémas mondialistes. Le rôle stimulant de la Russie peut être considérable. Il peut y avoir des hommes politiques européens influencé par ce que représente la Russie, qui est un contre-modèle par rapport aux États-Unis. Et oui, je crois que dans l'avenir, quantité d'imprévus historiques peuvent faire que des hommes politiques que nous ne connaissons pas actuellement pourront se révéler européens au sens profond et véritable. Et pourront prendre, pourquoi pas, à ce moment-là, des initiatives qui seront la disparition de cette fausse Europe de Bruxelles, pour jeter les bases d'une future république européenne qui serait totalement identitaire, qui aurait comme vocation de protéger les peuples européens, les traditions européennes, et y compris nationales, mais au sein d'un ensemble étatique européen. Ça n'est pas du tout impossible. C'est une perspective d'autant plus imaginable que désormais nous avons un voisin possédant un État puissant, la Russie, et qui, à sa façon, est identitaire russe. et qui n'est pas du tout mondialiste, qui a rompu définitivement avec l'international, n'est-ce pas ?
Donc c'est une archive Renaud Dely qui date d'il y a un peu plus de 10 ans avant l'invasion de l'Ukraine, mais elle résonne quand même aujourd'hui. Elle ressemble à ce qu'on entend beaucoup à l'extrême droite.
Elle est saisissante effectivement parce que c'est une grille de lecture extrêmement précise des position de l'extrême droite en général, en tout cas de la plupart des mouvements d'extrême droite européens, et en particulier du Rassemblement National et de Marine Le Pen, à l'endroit de Vladimir Poutine. Cette fascination qui fait de Poutine en quelque sorte un prophète civilisationnel, en tout cas plutôt le dernier à défendre vraiment ce qui relève de la civilisation occidentale, on l'entend chez Dominique Venner et on l'entend et on le voit aujourd'hui au Rassemblement National depuis de nombreuses années, même si évidemment on le voit un peu moins mis en avant cette thématique depuis février 2022 et depuis que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, et puis au-delà d'ailleurs du cas de la Russie, hein, de cet identitarisme brandi pour applaudir et soutenir Vladimir Poutine par l'extrême droite. On voit dans de nombreux pays européens des mouvements d'extrême droite identitaire progresser aujourd'hui, progresser dans les urnes, voire accéder à des coalitions gouvernementales en se basant peu ou prou sur la même vision du monde, la même vision de l'Europe, la même vision de l'Occident que celle qui a été professée par Dominique Venner pendant plus d'un demi-siècle.
Merci Renaud Dely. L'assiégé, passionnante biographie politique paru chez Jean-Claude Lattès.
Merci beaucoup, merci à vous.
L'identité dans le débat politique, comment et pourquoi cette notion est-elle devenue centrale ? Comment et pourquoi, à partir, disons, du moment où, sous la pression du Front National, Nicolas Sarkozy, en 2007, lie la question de l'immigration à celle de l'identité ? Comment et pourquoi, donc, l'identité française a-t-elle remplacé l'identité de la France ? Comment et pourquoi l'identité de notre pays a-t-elle plus à voir avec ce que nous sommes qu'avec ce que nous avons décidé d'être, la France des cathédrales ou la France républicaine ? Le terme « identité » a changé d'acception et n'est plus le véhicule des mêmes valeurs dans nos débats politiques. Michael Fossel, professeur de philosophie à l'École Polytechnique, auteur, entre autres, de « Récidive 1938 » au PUF, va nous aider à voir plus clair sur ces notions évolutive et un peu fourre-tout d'identité. Je suis allé le voir chez lui dans le nord de Paris.
Le mot identité, du côté, disons, quand même de l'extrême droite, a été réinvesti à un moment où le mot race, lui, n'était plus possible. Et génération identitaire, ou toute une série comme cela de mouvements, plus ou moins intellectuels, ou politiques, oui, plus ou moins, ont réinvesti ce thème de l'identité en lui donnant évidemment le sens de quelque chose qui était donné par la naissance, en l'occurrence, et qui donc était excluant de toute, ou exclusif plutôt, de toute personnalité. Ce qui se fait, évidemment, sur le fond d'un rejet fondamental de ce qui est malgré tout la conception, je dirais, républicaine de l'identité. Il n'est, à mon avis, pas tout à fait exact de dire que on peut se passer de ce concept en politique. L'identité n'est pas un gros mot. Par contre, si on parle de l'identité française, alors il faut admettre qu'elle est définie. Alors, on est pour ou on est contre, mais elle est définie par la Révolution française sur la base de ce qui précède la Constitution, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme, qui est précisément ce qui définit l'ensemble, pas seulement des conditions, mais des droits. C'est pas des conditions pour rentrer dans l'identité française ou dans la nationalité française, ce sont des droits, donc les droits de l'homme, c'est-à-dire tout de même une manière d'affirmer quelque chose de spécifique à la France, mais une spécificité qui évidemment n'est pas l'identitaire ethnique, la spécificité c'est de se constituer autour d'une certaine forme d'universalité. Donc au fond,
il y a une petite contradiction de spécificité et universalité. Dans la même phrase, ça, c'est compliqué quand même, non ?
Ça peut paraître.
Conceptuellement.
Alors c'est tout le paradoxe des droits de l'homme, de dire qu'à la fois, au fond, cette déclaration ne fait que dire ce qui était déjà présent avant, mais qu'on ne savait pas, bon, un universel donc, et de le dire dans un certain moment de l'histoire. Alors évidemment, la spécificité, me semble-t-il, de l'identité française républicaine, au sens des droits de l'homme, peut-être pas du mot république qui aujourd'hui reçoit beaucoup d'acceptions différentes, l'identité par les droits de l'homme, c'est une identité qui se caractérise par son ouverture. C'est pas l'identité comme quelque chose qui serait clos, fermé sur des traditions, ou même a fortiori d'ailleurs sur une langue ou sur une race ou une ethnie. C'est une identité qui se fonde au fond de manière juridique. Donc c'est-à-dire sur l'idée que nous appartenons à la même communauté nationale dès lors que nous acceptons un certain nombre de principes fondamentaux qui sont ceux des droits de l'homme. Donc il y a un paradoxe, c'est le paradoxe démocratique, c'est-à-dire d'affirmer que on édifie une société sur des principes universels, mais effectivement dans une société donnée qui est celle, en l'occurrence ici, française.
Est-ce que chaque parti politique, chaque camp politique doit investir ce mot, lui donner une acception et faire gagner son acception dans le débat français ?
Je vois mal comment un mouvement politique quelconque, si a fortiori s'il se réclame plutôt des droits de l'homme ou du progressisme, pourrait faire l'impasse sur un terme qui est devenu aussi, on peut le regretter, mais aussi dominant dans le champ du débat public. Par conséquent, l'ignorer au nom d'une espèce de conception très abstraite de l'existence, un peu liée à la Startup Nation ou à la mondialisation heureuse, aujourd'hui apparaîtrait simplement pour ce que c'est-à-dire comme quelque chose d'assez idéologique qui ne correspond pas aux expériences des gens. Vous avez dit l'identité, elle est très prégnante aujourd'hui. Je crois que si la question de l'identité est politiquement très prégnante, c'est qu'elle se pose d'abord au niveau individuel. Nous nous posons tous la question, au fond, de savoir qu'est-ce qui fait notre identité au titre d'individu, je veux dire. Qu'est-ce qui fait que je suis le même, en dépit de tout ce qui m'arrive dans mon histoire. Et cette question-là, elle se retrouve au niveau des nations. Qu'est-ce qui fait que la France demeure la France, en dépit de la mondialisation, des évolutions, de l'immigration. C'est cette question-là, il faut, à mon avis, pour la comprendre jusqu'au bout, aussi comprendre qu'elle se pose d'abord au niveau subjectif, d'abord au niveau des individus. Quand les individus sont, pour des raisons d'évolution, économique ou culturel, en permanence confronté à la question de savoir qui je suis, qu'est-ce que je vaux, quelle est ma valeur, suis-je le même que celui que j'ai été, pourquoi est-ce qu'on m'impose de telles transformations dans mon travail, dans ma manière de vivre, etc.
Ou pourquoi on me discrimine aussi.
Pourquoi on me discrimine, évidemment, lorsqu'il s'agit des personnes qui viennent de l'étranger. La question de l'identité se pose inévitablement, c'est-à-dire qui suis-je, moi, à qui on demande de transformer ma vie ou de m'adapter ou de m'assimiler.
Aujourd'hui, l'identitarisme, tous les épisodes d'Enquête de politique sont à retrouver sur l'appli Radio France ou sur franceinter.fr. On retrouve le philosophe Michael Fossel, professeur à Polytechnique, pour la suite de notre entretien sur l'identitarisme.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Quand on parle de l'identité de la France, donc du pays, on pense plus spontanément, aujourd'hui, c'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, à la droite, voire à l'extrême droite, et quand on parle de l'individu, l'identité de l'individu, on pense plutôt à la gauche, à une certaine gauche qu'on appelle, avec des guillemets, wokisme, à qui on reproche justement de trop s'intéresser à l'individu et d'en oublier l'universalisme de la gauche. C'est étonnant ce parallèle ou ce face-à-face.
En réalité, ça veut dire que la question de l'identité collective, aujourd'hui, elle a trouvé des solutions plus facilement à droite, ou disons plutôt à l'extrême droite, c'est-à-dire que la question « qui suis-je ?», elle est en quelque sorte absorbée par « qui sommes-nous ?». Et qui sommes-nous ? Ben, nous sommes des Français dits de souche, pas des Français de papier, c'est-à-dire des héritiers de toute une histoire. Alors que, effectivement, dans une certaine partie de la gauche, la question de l'identité collective, qui autrefois était réglée par l'appartenance, par exemple, à la classe ouvrière, ou par l'appartenance, je dirais, au camp du progrès ou au peuple de gauche, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait quand même une identité progressiste en l'occurrence, ou un horizon, mais qui nous séparait un peu de notre individualité, faisait que quelque chose était plus grand que nous, cette idée s'est relativement perdue, pour des raisons qu'on peut comprendre. D'ailleurs, on ne peut plus dire prolétariat, classe ouvrière, comme on le faisait au 19e siècle, en particulier d'ailleurs, parce que dans cette dite classe ouvrière, bon, elle a subi beaucoup de transformations, elle existe toujours à mon avis, mais elle a subi beaucoup de transformations sociologiques, et aussi d'ailleurs ethniques, hein, c'est-à-dire que le « nous » est devenu un petit peu un point d'interrogation à gauche. Ce qui donne tout de même parfois des tentations, je dirais, identitaires victimaires, hein, c'est-à-dire, effectivement, je suis le représentant de souffrances qui ont été infligées dans l'histoire, et je comprends à la fois cette tentation victimaire, on s'identifie toujours à partir d'une certaine forme de souffrance, simplement, pour l'instant, ce qui est en panne, c'est la possibilité de convertir ça, bon, à gauche, disons, dans un collectif, c'est-à-dire une identité qui soit plutôt une identité joyeuse. Alors que, en revanche, du côté de l'extrême droite, il y a, même si cette identité est fondée bien souvent sur le ressentiment, sur le nous contre eux, mais ça c'est le wokisme nationaliste ou le wokisme d'extrême droite, hein, c'est-à-dire que quand même, il y a cette idée que nous, alors si je parle un peu comme eux, si je puis dire, nous sommes les victimes de l'immigration, du soi-disant grand remplacement, et d'autre part, nous nous définissons en quelque sorte comme des résistants à ce qui nous menace. Au fond, il faudrait peut-être pas tomber dans cette opposition opposition un peu stérile, et puis surtout qui donne l'avantage à l'extrême droite, entre des identités blessées, mais qui se font toujours au détriment d'un projet, d'un avenir.
Donc, les obsédés de l'identité à droite, de l'identité française, et les obsédés de l'identité à gauche, de l'identité individuelle outragée, les deux, regardent trop derrière et pas assez devant.
Voilà, alors je ne les mets pas sur le même plan, parce que même dans ces identités outragées ou violentées, il y a aussi une protestation contre l'injustice réelle qui a été faite à un certain nombre de minorités, mais s'il y a un point...
Oui, il y a les reconnaissances peut-être pas assez abouties de la colonisation, de l'esclavage.
Parfaitement, c'est-à-dire au fond que, et puisque l'identité dont peut se réclamer, je dirais, un Français républicain, c'est celle de la République, on peut aussi dire que cette identité, elle n'est pas accomplie. Qu'elle est devant nous, en quelque sorte. Évidemment, ceux qui aujourd'hui utilisent le mot république sans lui donner grand sens, au fond, simplement en disant bah, c'est la loi de l'État, considèrent que c'est bon, nous sommes en république et puis l'affaire est terminée. Donc il n'y a plus rien à, au fond, il n'y a plus rien à revendiquer. Nous sommes déjà sous le règne de la loi égalitaire, ce qui est évidemment complètement faux, enfin, de mon point de vue. En revanche, ce qui est vrai, c'est que droite et gauche, extrême droite et extrême gauche, sont confrontés, me semble-t-il, aujourd'hui, bon, à quelque chose comme la crise de l'avenir. Et la droite, quand il y a crise de l'avenir, ou l'extrême droite, a fortiori, est en meilleure posture, puisque c'était des politiques du passé. Si on considère que le présent n'est que le résultat du passé, que nous sommes simplement victimes, alors bon, soit d'une immigration, c'est ce que pense l'extrême droite, d'un déferlement migratoire, ou d'un passé victimaire, ce qui est parfois le discours d'une certaine gauche, alors évidemment, la question se pose de savoir, bon, bah, pourquoi encore s'engager, puisque en général, c'est au nom d'un avenir ouvert et d'une identité qui est encore à réaliser qu'on le fait.
Alors il y a un éternel débat sur l'identité de la France. Est-ce que la France, ça commence avec la République, donc avec 1789, on est une nation spécifique, ou alors est-ce que c'est plus ancien, Hugues Capet ou Jeanne d'Arc, vous l'avez dit, c'est évidemment un peu de tout ça. Je crois que vous vouliez nous citer une phrase de Marc Bloch qui est souvent mal utilisée.
Oui, il y a une phrase qui est rituellement citée.
Donc de l'historien Marc Bloch.
De l'historien Marc Bloch.
Dans l'étrange défaite.
Dans l'étrange défaite, écrit en 1940, un résistant qui d'ailleurs sera assassiné par la milice, où il écrit « Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. » Alors quand on en reste à cette phrase...
Oui, cette phrase, elle est souvent citée généralement par les conservateurs, voire les réactionnaires qui trouvent que on en fait un peu trop sur la République et que on ne regarde pas assez vers notre passé glorieux et monarchiste.
Par ceux qui pensent qu'en fait la France n'a pas été transformée si peu que ce soit par la Révolution française et donc aussi par l'horizon républicain. Au fond, la France du sacre de Reims, les rois, et la France de la fête de la Fédération, c'est la même France. Ce que dit d'ailleurs en un sens Marc Bloch. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir dans quel contexte il le dit. Il écrit en 40, je l'ai dit. Et quand on lit la suite, il précise immédiatement qu'il se réfère à ceux qui, au moment du Front populaire, en fait, ne voulaient pas comprendre que la France était aussi du côté des ouvriers, des grèves ouvrières. Et il parle à propos, justement, de la bourgeoisie de droite. À ce moment-là, il écrit « Leur imperméabilité au plus beau jaillissement de l'enthousiasme collectif suffit à les condamner. Dans le Front populaire, le vrai, celui des foules et non des politiciens, il revivait quelque chose de l'atmosphère du Champ de Mars au grand soleil du 14 juillet 1790. » Donc c'est ça, la fête de la Fédération. Il voulait dire que l'aveuglement à ce moment-là de ceux qui disaient plutôt Hitler que le Front populaire, c'était l'aveuglement au fait que la France était aussi dans le Front populaire, que la France n'est pas simplement la réitération du passé ancestral d'Ancien Régime. Et au fond, cette phrase, elle dit qu'il faut que nous fassions avec notre passé, mais dans ce passé, il y a, et pour Marc Bloch au premier chef, la rupture républicaine, c'est-à-dire 1789.
Vous pouvez nous laisser un message sur la page de l'émission, par exemple, pour nous suggérer un isme ou un concept politique à décortiquer, comme on l'a fait aujourd'hui avec l'identitarisme. Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert, archive sonore Franck Olivard, programmation musicale Thierry Dupin, et merci à Paola Collin qui était avec nous aujourd'hui à la technique. La rediff, c'est demain dimanche à 23h. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.